Afrique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, un grand plaisir de vous retrouver après une petite pause. Merci aux collègues qui vous ont tenu compagnie ces dernières semaines. Allez, voyons ce qui vous attend dans ce Washington Forum. Eh bien, nouveau coup de projecteur cette semaine sur la crise politique au Burundi.
Le coup d'État du 13 mai a échoué, mais la crise politique est loin d'être terminée. Des Burundais continuent à descendre dans la rue pour dire non à un éventuel troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sur fond d'élections reportées. Faut-il craindre le pire pour le Burundi ? Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. D'environ 3 minutes, entretien avec nos invités. Mais d'emblée, un survol de la situation sur le terrain. Des affrontements ont été signalés ce jeudi entre manifestants anti-Nkurunziza et forces de l'ordre à Bujumbura, la capitale. Un bilan fait état de moins 2 protestataires tués par des tirs de policiers. Le compte-rendu de Lionel Gaïma.
Les manifestations contre la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat le 28 juin se poursuivaient ce jeudi dans les rues de Bujumbura malgré la riposte musclée des policiers. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées depuis fin avril, le début du mouvement de contestation.
Ce qui se passe dans notre pays est tragique. Ils viennent dans les maisons des gens où ils tuent des enfants et tuent des citoyens. Alors que nous, citoyens, voulons tout simplement une vie meilleure. Non, ces choses-là ne devraient pas exister. Ces actes doivent cesser. Le Burundi est fatigué. Nous voulons la paix.
Vous voyez, cette personne vient d'être tuée sous nos yeux. Nous demandons au président américain Barack Obama et au reste du monde de se lever et d'intervenir. Il faut qu'ils empêchent cet homme d'aller plus loin.
Un appel déjà entendu par Washington, Linda Thomas Greenfield est secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines pour les États-Unis.
Ce que nous voyons aujourd'hui est une forte, très forte réaction à sa décision de briguer un troisième mandat. Dans l'intérêt de la stabilité du pays, dans l'intérêt de voir le Burundi avancer dans la bonne direction et non pas le voir régresser, nous avons appelé le président à ne pas briguer un troisième mandat.
Toutefois, le président Nkurunziza ne l'entend pas de cette oreille. Dans un discours à la télévision mercredi soir, il a fait valoir que sa candidature à un troisième mandat ne viole pas la Constitution parce qu'à ses yeux, son premier mandat ne compte pas, ayant été élu par le Parlement et non au suffrage universel direct. Pierre Nkurunziza a brandi le spectre de la guerre civile.
Nous mettons en garde les médias burundais ou étrangers qui tenteraient de diffuser des informations de nature à semer la haine et la division entre Burundais et à jeter le discrédit sur le Burundi ou à encourager des mouvements d'insurrection, surtout pendant cette période électorale. Aucun Burundais n'aimerait revivre les tensions des divisions ethniques ou de toute autre nature. Le sang qui a été versé par le passé nous a servi de leçon.
Un conflit entre Hutu et Tutsi qui a fait 300 000 morts entre 1993 et 2005. Un passé tragique qu'aucun Burundais ne veut en effet revivre. Mais de telles craintes sont palpables dans les rues du pays, qui pour l'heure reste plongé dans une grave crise politique avec un coup d'état manqué de la semaine dernière et les élections générales censées débuter le 5 juin qui ont déjà été reportées d'une semaine sous la pression internationale.
Voilà, l'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Pour cela, nous avons réuni pour nous tout un panel. Willy Niyamitwe, porte-parole de la présidence du Burundi, qui nous rejoint encore une fois cette semaine de Bujumbura via Skype. Merci d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie et je salue les auditeurs ainsi que les personnes avec qui on va discuter aujourd'hui.
Autre invité dans la capitale, Deo Hakizimana, fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Il était également candidat à la présidentielle de 2010 au Burundi. Et avec moi sur ce plateau, mon collègue de la Voix de l'Amérique, Frédéric Kundikidje. Merci d'être là.
C'est un plaisir.
Alors, je vais commencer par vous, Willy Niyamitwe. La rue refuse que votre patron brigue un troisième mandat. La contestation populaire ne faiblit pas après le putsch avorté. On compte encore des morts ce jeudi. Dans ce contexte de haute tension, Pierre Nkurunziza peut-il maintenir sa candidature ?
Merci beaucoup pour votre question. De toutes les façons, si vous pensez que la rue, la rue ne faiblit pas, je pense que c'est parce que vous êtes loin. Vous êtes loin de la réalité. Ce qui se passe au Burundi est tout simplement amplifié, je dois le dire, par les médias. Alors, quand vous entendez le bruit des canons, etc., vous pensez que c'est vraiment beaucoup de gens qui sont dans les rues et qui contestent la candidature du président, mais vous vous trompez. Vous vous trompez parce que si ceux qui soutiennent la candidature restent encore silencieux, cela ne veut pas dire que c'est le millier de personnes ou les 2 milliers de personnes sur tout le territoire national qui vont changer la marche des choses. Alors, si les membres du parti au pouvoir, qui sont évalués à plus de 3 millions d'adultes en âge de voter, sont là silencieux et laissent les choses aller, c'est parce qu'on sent bien que cette contestation est circonscrite sur une très petite portion du territoire, sur moins de 0,1 ou 1% du territoire burundais. Alors, ça se passe à Musaga, ça se passe à Nyakabiga, ça se passe à Ngagara et à Mutakura. Alors, c'est 4 quartiers ou 5 quartiers sur 3002 quartiers. Alors, comprenez que par rapport à la superficie du territoire national, on ne peut pas dire que c'est la majorité, c'est la rue qui s'oppose à la candidature du président.
Alors oui, évidemment, nous vous comprenons, c'est votre boulot, c'est votre travail de minimiser les manifestations sur le terrain, mais quand même, on voit, on entend ces voix dissidentes, il y a des morts même. Alors, vous ne pouvez pas nous dire que rien ne se passe sur le terrain?
On ne dit pas que rien ne se passe et on regrette même les morts. Même si c'était une seule personne, c'est un citoyen burundais et nous avons besoin de préserver les vies humaines. Mais ce qui est en train de se passer est tout simplement une insurrection. Vous savez, quand on est en démocratie, la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la guerre des idées, c'est la guerre d'idées. Alors, si le parti au pouvoir, les membres, décident de mettre, d'appointer comme candidat M. Pierre Nkurunziza, il y a des voies reconnues par la Constitution de la République du Burundi et d'autres lois de contester. Si les membres d'autres partis d'opposition, principalement le parti MSD, parce que à Mukisaga et à Ngagara, c'est le fief du MSD, si la majorité des membres du MSD trouvent à redire à cette candidature, il y a des voies légales de faire la contestation. Mais ce n'est pas en barricadant les routes. Oui. Ce n'est pas en mettant les enfants au front. Ce n'est pas en empêchant les enfants d'aller à l'école. Ce n'est pas en violant les droits des non-manifestants. Ce n'est pas en brûlant des véhicules, en brûlant des maisons, en tuant même des personnes peut dire qu'on est en train de manifester.
Évidemment, il y a tellement d'aspects à aborder. Nous allons revenir en fait sur un éventuel dialogue avec l'opposition. Mais je ne veux pas grossir les choses, mais ne craignez-vous pas que pour votre pays, ne craignez-vous pas une nouvelle guerre civile à force de vouloir s'agripper au pouvoir à tout prix, notamment en discréditant les accords d'Arusha qui ont pourtant mis fin à plus de 10 ans de conflit, accords censés assurer un partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi?
Je pense que, étant loin, vous ne parvenez pas à comprendre la réalité.
Il y a encore des médias sur le terrain. Il y a des interviews qui sont faites. Nous sommes en contact avec des gens sur place.
Alors, nous ne violons pas les accords d'Arusha. C'est le président Nkurunziza et son gouvernement qui mettent en application les accords d'Arusha depuis 2005. Nous ne violons pas du tout les accords d'Arusha. Il y a un débat démocratique ici. Est-ce que le président Nkurunziza peut se représenter ou pas? Le débat, il est démocratique, que ce soit au sein du parti ou au sein d'autres formations politiques. Alors, les membres du parti ont trouvé que c'était légal, légitime pour le président, l'actuel président, de se représenter. La loi est de notre côté. Alors, étant autorisé à se représenter, s'il y a des personnes qui contestent cette candidature, ce n'est pas par la violence qu'on peut arriver à une solution. Alors, on ne s'agrippe pas au pouvoir, on exprime notre droit. C'est le droit le plus absolu aux membres du parti au pouvoir de mettre un candidat de leur choix. Et celui qui conteste ce candidat, ce n'est que par les urnes qu'on peut lui dire non. Évidemment. Donc le peuple burundais, alors on ne craint pas une guerre civile.
Nous l'avons compris. Sinon, alors dites-nous très rapidement, 3 généraux impliqués dans la tentative de coup d'État ont été arrêtés, mais leur chef, le général Godefroy Niyombare, est-il toujours en fuite?
Alors, les informations qui sont à ma disposition, c'est qu'il est toujours en fuite. Hein. La dernière fois, c'était sur RFI, quand il disait qu'il allait se rendre, mais il ne s'est jamais rendu. Alors, il est toujours en cavale, mais j'avais lu un communiqué de maître Bernard Minguin, un Belge, qui disait qu'il avait contacté pour qu'il puisse plaider pour lui pour un procès équitable. Alors, c'est les dernières nouvelles que j'ai. Je ne sais pas où il se trouve, hein, donc il est toujours en cavale.
Ok. Alors, Deo Hakizimana, je le disais, vous êtes également à Bujumbura. Quelle lecture faites-vous de la situation sur le terrain? Risque-t-elle de dégénérer?
Alors, la connexion téléphonique n'est pas excellente.
Communication, communication difficile, évidemment. Quelle lecture faites-vous de la situation sur le terrain?
Oui. Bon, la première chose que je pourrais dire, c'est que la crise est toujours là. C'est une crise qui montre l'émergence de plusieurs enjeux, des enjeux, à mon avis, superposés les uns sur les autres, qui ont mis plusieurs moments pour mûrir et qui rejaillissent aujourd'hui sous la contestation autour de cette conflictuelle candidature à la présidentielle du mois de juin prochain. Je dis cela parce que il faut que vous sachiez que le Burundi est un pays qui a mis beaucoup de temps à pouvoir réaliser un certain nombre de progrès sur le plan de la gouvernance démocratique avec les élections qu'on a connues, les trois processus. Le premier a commencé en 2005, lui-même précédé par deux longues années de négociations. Mais le Burundi est en train aujourd'hui de payer le tribut de ce que nos dirigeants ont voulu faire en ne mettant pas en avant la priorité de priorité qu'il y avait. Il fallait, sur le plan politique, nettoyer le paysage, c'est-à-dire, quand je dis nettoyer, accorder l'attention au débat sur tout le flou, le passé historique macabre que nous avons traversé. Oui.
Tout à l'heure, je vais vous poser la question. Donc, comment trouver des solutions à ce problème? Nous allons y revenir. Je demande aux invités d'être brefs, précis, concis, parce qu'il y a tellement à aborder dans cette émission. Nous sommes rejoints par Samuel Gembock. Samuel Gembock, qui est chercheur à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il s'intéresse notamment aux enjeux sécuritaires et de défense en Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, question pour vous, Samuel. Les pays de la région des Grands Lacs, mais aussi l'Union africaine, réagissent-ils trop timidement à la situation? L'ONU et ses partisans occidentaux doivent-ils intervenir pour éviter un bain-de-sang?
Oui, je crois qu'une intervention de la communauté internationale est attendue, mais peut-être pas, on n'en est peut-être pas encore à la situation d'une intervention opérationnelle. Je pense qu'on est encore au stade de négociations diplomatiques, de négociations apaisées avec le pouvoir central burundais. Je pense que j'ai écouté tout à l'heure quelques points de vue des autres intervenants. Je pense que peut-être qu'il faudrait revenir sur l'interprétation des instruments juridiques en place. Je pense que d'un côté comme de l'autre, les torts, les erreurs, ou alors chacun a droit de dire ce qu'il pense du droit en vigueur. Mais en tout état de cause, je pense que quand on est un responsable politique de haut vol, comme le président Pierre Nkurunziza, qui a fait beaucoup de choses pour son pays, ça il faut aussi le souligner, c'est quelqu'un qui a remis le pays sur le chemin de la bonne gouvernance. Il y a des indicateurs qui le démontrent. Le rapport Doing Business a montré quand même que le pays a évolué. Les indicateurs Mo Ibrahim de la gouvernance montrent une évolution nette depuis 2005, depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais simplement, il faudrait qu'il puisse consolider le travail qu'il a mis en place. Ah bon. Le fait pour lui de ne pas respecter les accords d'Arusha qui disent exactement et très clairement que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Je pense que les accords d'Arusha n'avaient pour vocation de préciser la nature du scrutin.
Alors c'est vous voulez dire en d'autres mots que le problème, je m'excuse, donc vous voulez dire que le problème n'est pas vraiment le président Nkurunziza, donc on ne peut pas lui demander tout simplement de partir, de céder le pouvoir, n'est-ce pas ?
Oui, on ne peut pas tout simplement lui demander de céder le pouvoir. Mais il faut qu'il exprime une volonté politique digne d'un homme d'État qu'il a incarné dans son pays. Il faut qu'il rentre dans l'histoire. Oui. Je pense que l'histoire retiendra d'un homme qui a trouvé un pays complètement délabré, qui a passé plusieurs années dans des conditions de sécurité extrêmement dramatiques, avec des conséquences politiques qui resteront historiques. Je pense qu'il rentrerait dans l'histoire s'il décidait volontairement de ne plus se représenter en respectant scrupuleusement les accords d'Arusha qui fondent d'ailleurs le lit de la vie politique burundaise. À ce niveau, je pense que les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est lui ont demandé de respecter ces accords-là, et la communauté internationale est quasi unanime pour que...
Pardon, on a compris, donc le problème n'est pas aussi simple, c'est pas que le président lui-même. Alors les législatives et communales vont donc finalement se tenir le 5 juin, mais Frédéric, votre pays, hein, vous êtes Burundais évidemment, alors vous pensez que votre pays va pouvoir organiser ces élections et de manière libre, transparente et apaisée à cette date ?
Ben, il n'est pas très très certain que cela va bien se passer, et il y a le président Nkurunziza, aujourd'hui, qui a encore une fois rassuré que les élections seront donc bien organisées et vont se passer en paix. Mais ce n'est pas évident parce que il y a d'autres leaders politiques qui avaient même présenté leur candidature et qui se trouvent actuellement en dehors du pays. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas si... Oui. Bon, on est en pleine campagne maintenant, mais ils sont en dehors du pays pour l'instant.
Willy, très rapidement, le scrutin présidentiel du 26 juin risque-t-il également d'être reporté ?
Ça, on ne le sait pas. Ça dépendra de comment les acteurs politiques répondront d'abord à la campagne électorale, parce qu'ils ont mis du retard en organisant d'abord une marche de manifestation au lieu d'organiser leur campagne électorale. Ils ont mis du retard à essayer de gagner du temps quand les électeurs devaient aller se faire inscrire, enrôler. Au lieu de les encourager, ils leur disaient « n'y allez pas », mais par la suite, ils ont demandé qu'il y ait un report, qu'on allonge un peu l'enrôlement des électeurs. Donc chaque fois, les politiciens burundais, ils ont essayé de gagner du temps, et chaque fois, ça a été en leur défaveur. Alors, aujourd'hui, on leur a ajouté 10 jours pour qu'ils puissent battre campagne et participer aux élections. Mais rapidement, je voudrais quand même corriger une chose. Les gens croient qu'on viole l'accord d'Arusha. Là, non, on n'a viole pas l'accord d'Arusha, on ne devrait pas passer à une interprétation de dire voilà c'est un mandat, un mandat. On a toujours dit c'est un mandat ou deux mandats, oui, mais élu au suffrage universel direct. C'est ça le débat. Alors, si nous avons...
C'est le débat, mais niveau... dites-nous, est-ce que le gouvernement est-il prêt à dialoguer avec l'opposition sur les points de désaccord qui alimentent la crise, dont la décision du président de briguer un troisième mandat ?
Le dialogue politique a toujours existé. Même maintenant, je viens d'un dialogue politique avec les partis d'opposition et la société civile, avec l'appui du BNUB, des Nations Unies. Et demain, nous poursuivrons. Hier, on y était. Avant-hier, on y était. Donc, le débat a toujours existé. Et on discute. Il n'y a pas de questions taboues. On parle de tout. On discute de tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que...
Bon, le dialogue est en cours. Le dialogue est en cours.
Le dialogue est en cours. Oui. Le dialogue est en cours. Et nous avons
Willy,
toujours...
S'il vous plaît, vous restez avec nous. Le temps passe très vite. Donc, messieurs, je vous prie de rester avec nous. À venir, la réaction de la diaspora burundaise, de même que les commentaires Facebook. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après la pause. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Gros plan sur la crise burundaise. Sans plus tarder, les points de vue de nos Facebookers. Alors, on va commencer par Georges Bouwendoua de la RDC. En analysant les accords d'Arusha, le président burundais est dans sa légitimité de faire un troisième mandat. C'est ce que notre invité disait tout à l'heure. Il n'est pas question de se comporter comme Joseph Kabila qui veut tout essayer pour se maintenir au pouvoir. Je soutiens ce jeune président car je crois qu'il fait ce qui est à son pouvoir pour les Burundais. Agbessi Mesanfoli de Malbaza, Niger. Le président Nkurunziza ne veut rien lâcher, c'est grave. Où se trouve la communauté internationale dans tout ça? Elle ne joue pas son rôle de facilitateur. Moumine Dembélé, Bamako, Mali. Pour qu'il y ait la paix au Burundi, Nkurunziza doit quitter le pouvoir. Joseph Lukuni de Tournai, Belgique. Peuple de la République du Burundi, soutenons l'espoir qui est le président du peuple, Pierre Nkurunziza. Et voilà comme quoi des avis très partagés. Comme promis, la réaction des membres de la diaspora burundaise aux États-Unis. Roger Muntu a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux. Salut Roger.
Salut Jacques, permettez-moi de vous souhaiter un welcome back d'abord dans Washington Forum.
Alors... envie de retrouver les téléspectateurs.
Vous l'avez si bien dit, Jacques, nous avons sillonné Washington pour rencontrer quelques membres de la diaspora burundaise en Amérique. La situation, Jacques, dans leur pays d'origine, n'est hélas pas indifférent.
Mon point de vue, c'est que c'est vraiment triste. C'est écœurant, en fait, et c'est presque même décourageant.
Madame Elavine Doura est professeure en résolution des conflits et médiation à George Mason University. Cette mère des deux enfants s'inquiète de la situation dans son pays natal. Elle pense que les Burundais doivent voir plus loin.
J'espère que le président et ses supporters, même ceux qui sont dans les démonstrations, vont prendre aussi un pas derrière. Et en espérant qu'en reculant, ils vont se rendre compte que le Burundi appartient à tout le monde, à tous les partis politiques, à toutes les souches sociales et économiques, et qu'en reculant, ils vont se créer de l'espace pour se mettre ensemble en dialogue, en conversation, portant sur l'avenir du pays et l'avenir des Burundais, au-delà de la politique.
Jean aussi est Burundais. Ça fait 16 ans qu'il vit aux États-Unis avec sa femme. Cet opérateur économique et ancien footballeur nous dit ce que pensent les membres de la diaspora burundaise.
Nous sommes affectés parce que nous sommes dans la tristesse. Il y a complètement un blackout des médias. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a trop de rumeurs. Alors les rumeurs engendrent aussi un genre de dépression, parce que si vous ne savez pas ce qui se passe avec les parentés, vous ne savez pas où sont vos amis, ça crée énormément d'amertume.
Tout ce qu'on peut faire, contribuer au développement de la capacité du peuple burundais. Si vous êtes artiste, allez apprendre aux jeunes comment utiliser l'art pour générer des revenus, pour travailler ensemble, pour vraiment développer leur communauté. Si vous êtes enseignant comme moi, allez enseigner aux autres enseignants comment développer des programmes de l'enseignement et la pédagogie de la paix.
Spécialement au président de la République, qui est la question centrale. C'est le facteur principal de cette crise, de renoncer à ce troisième mandat, parce que le troisième mandat crée tellement de problèmes.
Jacques, ils ont ajouté que cette situation est un signal fort aux dirigeants africains pour dire que l'Afrique a changé. On ne peut plus s'imposer ou conserver le pouvoir pour ses propres intérêts, ont-ils dit. Ils appellent les sociétés africaines à se mobiliser en vue des échéances électorales cruciales à venir. Jacques.
Voilà, réaction de la diaspora burundaise, évidemment. Merci Roger, toujours chic. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, retrouvons nos invités. Willy Namitwe, porte-parole de la présidence du Burundi, l'ex-politicien Deo Hakizimana, et avec nous sur ce plateau, mon collègue Frédéric Koundikeje, et depuis Paris, Samuel Genbok, chercheur à l'IRIS. Willy, un mot sur les médias privés très rapidement. Est-ce que le régime tente-t-il de baïonner la presse indépendante ?
Non, pas du tout, pas du tout. Ça nous frustre.
Pourquoi avez-vous fermé alors la RPA, la radio la plus écoutée au Burundi ?
La plus écoutée, mais aussi la radio qui répand le plus de rumeurs. La radio au sein de laquelle on ne peut pas dire que c'est vraiment du professionnalisme, du journalisme. C'est une radio qui faisait de la honte dans notre pays. Alors, il fallait vraiment la fermer. Et pour preuve, vous voyez que les putschistes sont allés vite l'ouvrir et l'utiliser pour transmettre leur message. C'est une radio, certes, qui créait beaucoup de problèmes dans notre pays et c'était vraiment de la honte. Donc, c'était important et urgent que le pouvoir prenne la décision de la fermer.
Alors, ces médias que vous n'aimez pas, ces mêmes médias qui parlent de division au sein de l'armée. Là, c'est une question pour vous, Samuel Gembock. Si division il y a donc au sein de l'armée, est-ce que vous croyez que cela va envenimer le sentiment d'insécurité qui prévaut dans le pays ?
Oui, cela peut envenimer le climat de sécurité qui plane dans le pays, mais cela peut avoir un impact économique conséquent. Je disais tout à l'heure que le Burundi a enregistré des points importants depuis 2005, que ce soit en matière de gouvernance ou en matière d'environnement ou en matière d'assainissement de l'environnement des affaires. Or, si les investisseurs étrangers doivent continuer à investir au Burundi et que la stabilité et la garantie en termes de sécurité n'est pas établie, alors il y aura de sérieux problèmes parce que le Burundi qui sort d'une situation économique difficile, qui doit consolider ses indicateurs macroéconomiques, a besoin de ses investisseurs étrangers. Et si ceux-ci n'arrivent plus à investir au Burundi, ça va alimenter des contestations sociales plus tard.
Il nous reste très peu de temps. Deo Hakizimana, si vous m'entendez, j'ai lu des articles sur l'Internet dans lesquels vous dites que l'enjeu au Burundi, c'est la course aux minerais. Expliquez-nous cela. Ah, je ne sais pas si Déo, peut-être Frédéric, vous avez dû parcourir ces articles. Les minerais, c'est également un problème ?
Je l'ai entendu pour la première fois avec M. Déo quand je l'ai interviewé. Oui. Il m'a dit donc que le Burundi est plein de minerais. Oui. Donc les mêmes minerais qu'on trouve à l'est du Congo se trouvent aussi au Burundi. C'est encore à vérifier, je ne suis pas sûr.
Absolument. Willy, selon les Nations Unies, au moins 100 000 Burundais ont fui le pays, terrorisés par le climat préélectoral. Alors, cette situation va-t-elle empirer ?
Non, au contraire, parce que maintenant, il y a des Burundais qui commencent déjà à rentrer. Il y a près de 10 000 qui sont déjà retournés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les chiffres qu'on donne, plus de 100 000, ce n'est pas nécessairement plus de 100 000. Il faut vraiment faire attention au gonflement des chiffres.
Vous êtes en train de contester les chiffres de l'ONU, hein ?
Nous contestons.
Pas les chiffres à moi.
Ouais. Oui. Nous contestons ces chiffres hein, parce que nous pensons que on essaie de les gonfler. Parce que officiellement, nous, on sait bien que il y a des Burundais qui partent. Certes, il y a des Burundais aussi qui reviennent. Et ceux qui partent, la raison qui nous pousse à croire que les gens vont vite rentrer, c'est que ceux qui partent. Pour la plupart, si pas tous, et ils vous disent qu'ils partent à cause des rumeurs, ils ont peur. Alors, il suffit, le gouvernement a le devoir de les tranquilliser afin qu'ils rentrent au bercail, afin qu'ils viennent participer au processus électoral. Parce que
Willy,
c'était des rumeurs qui étaient
véhiculées. Dites-nous très rapidement, Willy, alors à vous entendre, l'actuel régime veut vraiment ramener la paix au Burundi. Alors, que compte-t-il faire ? Quelles sont les concessions ? Est-il prêt à faire pour mettre un terme aux troubles qui secouent le pays très rapidement ?
Alors, les concessions sont là. Par exemple, ceux qui avaient appelé les gens à manifester disaient qu'ils ne pouvaient pas se mouvoir facilement et avaient besoin que le gouvernement lève les mandats d'arrêt. Alors, le gouvernement a accepté de lever ces mandats d'arrêt afin que ces gens participent au processus électoral en cours. Deuxièmement, le gouvernement a envoyé des émissaires au Rwanda, en Tanzanie et partout afin de faire rentrer ces réfugiés. Donc, tout est en train d'être mis en œuvre.
Messieurs, malheureusement, c'est tout ce qu'on peut dire ce soir. On y reviendra certainement. Merci Willy Nyamitwe, porte-parole du président burundais, Deo Hakizimana, du Centre de recherche et d'initiative pour le dialogue Burundi, et puis mon collègue de la VOA, Frédéric. On avait également Samuel Gembock de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nous souhaitons bon courage à nos confrères burundais, dont notre radio partenaire, la très populaire RPA, toujours interdite au Burundi. Mes chers amis de la VOA, partout où vous êtes, je vous remercie de nous avoir accueillis. À très bientôt. Take care.